Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, nous allons reprendre. Je prends le relais de notre amie Jacqueline Pigeot, qui a déjà beaucoup fait. Et nous allons finir avec un peu de retard. Franz Kino, Jikan. Genshu ということで、1時間ほど遅れて、終わると思いますけど、じゃあ早速、アラン・ロシェって、高等研究、pardon, alors, donc, mon collègue Alain Rocher de l'École pratique des hautes études, grand spécialiste du Japon médiéval, entre autres, de beaucoup d'autres choses, qui a commencé avec des études sur la mythologie japonaise et qui étudie à présent. La dernière publication concerne la divination japonaise et il va nous entretenir aujourd'hui, il va au moins nous apprendre un nouveau mot pour les mots croisés et il va nous expliquer les trois régimes du clédonisme, Vox Dei, Vox Populi et Vox Mundi.
Je remercie Jean-Noël Robert qui a eu d'abord la gentillesse de m'inviter à ce colloque alors que je ne suis pas un disciple de Bernard Franck. Et surtout d'avoir poussé la mansuétude en vrai bouddhiste, de m'épargner la honte de figurer demain matin en compagnie de véritables spécialistes de la divination, puisque je vais parler un petit peu de divination. Alors, ce n'est certes pas devant un parterre de distingués spécialistes de lettres, d'histoire des idées, d'histoire des religions, qu'il sera nécessaire de rappeler à quel point l'émancipation d'une discipline ou même d'un sous-champ d'études peut être à terme une sorte de cadeau empoisonné. Cadeau, incontestablement, car en posant la spécificité d'un territoire, on encourage la création d'outils plus fins, plus efficaces, qui sont conçus spécialement pour travailler de nouveaux objets. Pour le dire à la manière japonaise, on peut dire que les kigu remplacent les dogu. Cadeau encore, parce qu'on fait apparaître des phénomènes qui autrement étaient invisibles et qu'on favorise la formulation de nouveaux problèmes. Mais sans vouloir jouer les rabat-joie, je crois qu'il est indispensable de rappeler que parfois ce cadeau de l'autonomisation, de l'émancipation d'une discipline, est empoisonné, car dans l'enthousiasme de la conquête d'un nouveau territoire, on oublie de rappeler certains dangers. Pour ne citer que le plus évident, le développement progressif d'une méthode extrêmement technique, très bien huilée, trop bien huilée, homogénéisée, dont le champ d'application est définitivement circonscrit, fonctionne si bien qu'il engendre une sorte de dialecte qui finit non seulement par sombrer dans une manière de psittacisme, mais aussi qu'il risque de supprimer son objet, comme le faisait naguère remarquer Georges Desvreux dans ses essais sur le complémentarisme, ce qui est un peu gênant quand on prétend faire émerger de nouveaux objets d'études. Et je crois qu'on pourrait dire que les études sur la divination, les recherches sur la divination, illustrent assez parfaitement ce cas de figure. D'un côté, il est incontestable que la promotion de la divination au rang de phénomène culturel sui generis, doté d'une logique propre, d'instruments qui ne fonctionnent que dans son domaine, a fait faire de gros progrès à la recherche. Il suffit pour s'en convaincre de comparer les analyses des Botero, Van der Mersch, au vieux catalogue des Boucher Leclerc, où j'ai retrouvé le mot qui intrigue tant, le mot de clédonisme, ou même plus récemment la synthèse de Kako et Lebovici dans les années 60, qui ressemblait à de vastes herbiers. Mais à trop vouloir pousser la formalisation de l'analyse, comme on le voit chez certains anthropologues par exemple, comme on l'a fait dans d'autres domaines dans les années 70 avec la sémiotique, puis avec la pragmatique, on tombe dans le défaut que signalait tout à l'heure Desvreux. Et je dirais, pour répondre à Vernant, à l'introduction de Vernant au livre que je citais, l'analyse purement technique de l'opération intellectuelle qui est à l'œuvre dans la consultation divinatoire ne doit pas, et d'ailleurs au bout du compte ne peut pas, être séparée de son contexte d'utilisation qui, beaucoup plus qu'un simple décor, lui donne son véritable sens. Et dans nos domaines, c'est-à-dire les études sur la divination en Extrême-Asie, Bernard Franck, bien sûr, un peu plus tard, Marc Kalinowski dans le domaine chinois, et pour citer un représentant de nouvelle génération, Mathias Hayek, ont brillamment compris le danger qu'il y avait à abstraire la logique divinatoire de son milieu et des attentes de ses utilisateurs. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, malgré le gros mot qui figure dans le titre, je résisterai au démon des définitions, et je choisirai des objets au contour plutôt flou, dont l'indétermination et l'inscription contextuelle font toute la richesse. ce que j'appelle clédonisme, est une famille assez vaste, qui est un sous-ensemble des cléromancies, c'est-à-dire forme de divination par tirage au sort, qui a la particularité de s'appuyer sur une parole fortuite. Cet exemple nous confirmera qu'il est dangereux de séparer certaines pratiques divinatoires d'autres, concurrentes, ou même plus généralement d'autres pratiques symboliques, sans parler bien sûr de leur arrière-plan politique. Les trois familles d'exemples sur lesquels je m'appuierai montrent en effet des empiètements considérables, à tel point d'ailleurs que l'identité même des types est fort sujette à question. Le premier cas, qui est visible par exemple dans le Kojiki, dans le Nihonshoki, est celui qu'on pourrait appeler en français de poésie oraculaire. Personnage extraordinaire, en un lieu marqué par la marginalité, s'adresse à un homme, une femme ou un groupe d'hommes pour chanter en termes voilés l'imminence d'une catastrophe, c'est le premier message, et en même temps pour offrir simultanément les clés du contournement de cette catastrophe. Il s'agit en quelque sorte d'une fatalité conditionnelle qui est présentée dans le poème. Le deuxième phénomène, présent d'abord dans le seul Nihonshoki, encore dans quelques années très précises du Nihonshoki, est celui qui possède les contours les plus nets, tout simplement parce qu'il résulte d'une importation assez récente d'un phénomène culturel chinois. C'est la pratique qu'on appelle en japonais, d'un terme douteux d'ailleurs, le mot de wazauta, qui est une sorte de poème rumeur, sans auteur identifié, qui circule dans le pays pour véhiculer d'abord une admonestation politique ou morale, ou encore pour annoncer un bouleversement politique. Le troisième cas, le troisième groupe d'exemples, dont le Manyoshu offre un grand nombre, au moins une quinzaine d'exemples, si j'ai bonne mémoire, mais qui apparaît déjà subrepticement au milieu du 7e siècle dans le règne de Kōgyoku, je crois, dans le Nihonshoki, est une pratique qui, elle, beaucoup plus codifiée, qui est clairement identifiée comme une forme de divination. On connaît plusieurs mots concurrents. D'abord le vieux mot de Yupuke, qui est devenu Yuke, puis Michiyuki no Ura, et beaucoup plus tard Tsuzimura, qui représente souvent une variante privée, provoquée parce qu'elle est technique, d'expérience ominologique. Le consultant ou la consultante se rend dans la rue ou bien près d'un carrefour ou à la tête d'un pont, généralement à un moment charnière de la journée, souvent le crépuscule, se met à l'affût des paroles prononcées par les passants pour en tirer matière à prophétie ou encore pour justifier une décision. Voilà en gros en quelques traits très grossiers les caractéristiques de ces trois types qui, je répète, empiètent l'un sur l'autre. Partant donc du constat que les opérations ominologiques, c'est-à-dire cette science des signes, cette science de la prédiction, n'apparaît presque jamais de manière isolée en temps de crise, mais apparaît de manière cumulative, en paquet ou en agrégat, j'essaierai de répondre aux questions, enfin si Jean-Noël me laisse le temps, de répondre à deux ou trois questions. D'une part, comment fonctionnent ces espèces de systèmes ominologiques mixtes dans la fabrique du sens ou dans la fabrique d'un événement historique? C'est la chose qui m'intéresse ici, en l'occurrence. De manière annexe aussi, comment, pour parler un peu à la manière de Weber, le symbolique et le politique développent leurs relations concurrentielles dans un contexte de crise? Et enfin, comment ces pratiques d'origine continentale, c'est le cas du Tongyao, par exemple, sont progressivement détournées de leur valeur pour finir par se plier au régime vernaculaire proprement japonais qui connaît un réinvestissement religieux. Enfin, vous connaissez tous cela. Je commencerai donc in medias res, enfin chronologiquement, par le deuxième des trois exemples que j'ai cités, en présentant les poèmes d'admonestation, qu'on appelle donc Tongyao en chinois, dans le Hanshu et le Hohanshu, et Wazauta en japonais, d'un terme qui, tel quel, n'est pas présent dans le Nihonshoki. La phonétique de ce Wazauta ne nous est livrée que par des dictionnaires un peu plus tardifs, de la fin du 9e siècle, je pense au Shinsenjikyo, par exemple, ou le Myogishu, etc. Et à partir de cet exemple privilégié, les wazauta du Nihonshoki, je, si j'ai le temps encore une fois, de m'appuyer à titre de comparaison rapide ou de contraste sur les deux autres formes que je viens de citer. Alors, absent du Kojiki complètement, totalement absent du Manyoshu, la petite douzaine de wazauta que l'on trouve dans le Nihonshoki sont concentrées non seulement sur deux petites décennies du 7e siècle, mais même sur une demi-poignée d'années à l'intérieur de ces deux décennies, la fin du règne de Jōmei d'une part, une seule occurrence, quatre ou cinq occurrences sous le règne de Kōgyoku, selon la manière dont on compte les poèmes, une sous Saimé, et puis cinq à nouveau sous le règne de Tenchi. Au-delà du Nihonshoki, un peu plus tard, on peut trouver quelques réapparitions très fugaces du Wazauta dans le Nihonkoki, le Shoku Nihonkoki, le Sandai Jisuroku, et même, si j'ai bonne mémoire, au moins un exemple qui ressemble au Wazauta dans le Nippon Ryoiki. Je choisirai dans cette liste de 12, qui est déjà assez étroite, de m'appuyer sur les Wazauta qui parsèment le règne de Kōgyoku pour plusieurs raisons extrêmement concrètes. D'une part, leur fréquence les distingue des autres règnes, des autres occurrences. Deuxièmement, ils sont systématiquement accompagnés de leur interprétation a posteriori, quelques pages plus loin, ce qui est en soi assez intéressant. Il y a le problème et la clé. Ensuite, leur contenu et leur forme indiquent de manière tout à fait explicite qu'il s'agit de textes recyclés, recontextualisés, qui ne prennent leur valeur ominologique que dans le travail de constitution de la mémoire historique. Et enfin, dernière raison, leur contexte d'apparition, la fameuse affaire, la fameuse crise Soga, la montée de la crise de Soga, les événements des années 40, plus précisément 42, 43, 44, semblent indiquer, et c'est un point intéressant ici, je crois, que la crise politique est très étroitement liée à une crise des régimes symboliques. En gros, ce que dit le texte, finalement, c'est moins la crise politique que la crise des régimes symboliques. On s'en souvient, après la mort de Shotoku entre le règne de Jomei et le tout début du règne de Kōgyoku, la puissance des Soga atteint son acmé et, à en croire nos textes, la limite du supportable. Vous vous souvenez qu'Emishi, par exemple, accorde de sa propre autorité la coiffe mauve à son fils, il fait construire un sanctuaire tutélaire, il se fait construire un grand misasagi, un grand tombeau presque impérial de son propre vivant, et pour ce faire, recrute d'office des serfs qui appartiennent à d'autres grands aristocrates. Donc je crois que l'indignation est à son comble, et tout cela se terminera par l'assassinat d'Iruka dans la fameuse salle, la réception au palais, en présence de l'impératrice et d'émissaires coréens. Alors, le texte semble décrire avec une profusion de détails la lente montée de la crise, l'usurpation des titres par les Soga, par exemple, l'élimination brutale des princes rivaux issus de Shotoku, et le contre-complot préparé par Nakatomi Okamako et le prince Nakano Oye. Et pourtant, si on regarde le texte avec des regards tout à fait innocents, on s'aperçoit que malgré cette apparente densité de matière politique, le Nihonshoki, à qui l'on attribue souvent, de manière un peu trop légère, une fonction analytique, une sorte de temporalité linéaire, objective, qui s'opposerait, encore une fois, selon l'idée reçue, à la temporalité cyclique ou mythique du Kojiki, en réalité est un texte qui est tout à fait, dans ses passages, qui est tout à fait obsédé pendant la montée de la crise, non par les événements nus, mais d'abord et avant tout par les signes de ces événements qui sont premiers. D'une part, on pourrait dire que les signes envahissent ou saturent le texte de manière purement quantitative. Vous avez des relevés de mois entiers qui tiennent lieu à eux seuls de matière événementielle, qui remplacent la mention de faits extérieurs. Pour me limiter aux premières années du règne de l'impératrice, vous avez les portentas du troisième mois de l'année, de l'eau aînée et tigre en 642, sont des pluies sans nuages, des pluies torrentielles, des pluies continuelles, suivies d'une grande sécheresse, une occultation stellaire. Puis toute une série d'autres signes défavorables, tremblements de terre, pluie exceptionnelle, coup de tonnerre vers le nord-ouest, temps printanier en plein hiver, etc. etc., etc. Puis, le premier mois de l'année suivante, des nuées de cinq couleurs apparaissent dans le ciel, laissant bien sûr, sans marqueur, une direction spécifique du ciel, le nord-est, qui, on le suppose, est la direction associée à la famille Soga, puisqu'il possède des terres, des biens immobiliers dans la région du nord-est. Tempête, vent violent, coup de tonnerre, grêle, etc. se succèdent. Ces 8e et 9e mois de cette année 643 sont marqués par la pourriture des eaux de l'essence de Mamuta, la mort des poissons, etc. Or, cette longue période correspond au Mogari de Jomei et elle est clôturée par les funérailles du même Jomei, la mort de la grande douairière, grand-mère de Kōgyoku. Malgré la diversité des types de signes, on peut distinguer d'abord globalement une sorte de crescendo, en plus une classification qui est présente de manière immanente dans le texte. Vous avez une ominologie cosmologique, une sorte d'ominologie ensuite rituelle ou politique, et une ominologie verbale, c'est-à-dire une série de signes verbaux, qui, elle, se trouve explicitement qualifiée soit de kizashi, soit d'un autre terme équivalent dans le texte, et qui accompagne les phases les plus intenses de la crise et qui constitue un peu le couronnement de notre passage. Mais je répète, il ne s'agit pas simplement de saturation, soit c'est une évidence, il suffit de feuilleter le Nihonshoki pour s'en apercevoir, mais au-delà de la saturation du texte par cette matière divinatoire, on a vraiment l'impression tout à fait claire que le les signes, ou les différentes familles de signes, jouent un rôle central dans ce que j'appellerais le dispositif étiologique, c'est-à-dire l'établissement des systèmes de causes qui expliquent les phénomènes ou les catastrophes, qui reposent pendant toutes ces années sur un courant qui est non seulement alternatif, mais qui ne cache pas ses coutures. On voit le fil blanc avec lequel sont cousus les passages. Vous avez un va-et-vient entre les prolepses, les annonces, les poèmes, les analepses, les collages de textes ou de poèmes ou d'autres anecdotes qui apparemment n'ont aucun lien avec le texte et dont la seule logique est précisément de fonctionner sur le mode divinatoire. C'est donc dans ce contexte qu'apparaissent les Wazaota, dont l'origine, je l'ai dit, est au départ chinoise. Avant d'aborder mes quatre ou cinq petits poèmes, je vous rappellerai deux ou trois petits détails. Il est sans doute vraisemblable que les analystes japonais ont dans leur mémoire un souvenir des grandes crises racontées dans le Hanshu et puis le Horanshu. Parmi ces exemples, on pourrait citer la crise des années 68, 67, 66, qui correspond à la chute de la maison Huo, par exemple. Crise assez longue qui a exacerbé l'intérêt, dans la Chine de l'époque, mais en même temps chez les analystes, l'intérêt pour les phénomènes surnaturels et encourager une intense activité herméneutique. Je ne vais pas vous donner une liste d'autres exemples, vous les connaissez, ils sont assez proches de ce que l'on connaît au Japon. Alors, la première différence majeure entre le cas japonais et le cas chinois, c'est que dans le Nihonshoki, pour des raisons idéologiques tout à fait évidentes, l'argument typiquement chinois de la perte du mandat céleste ne peut pas... il est hors jeu, il est tout à fait absent du paysage culturel et politique de l'époque. Autre grosse caractéristique, le mécanisme même de la divination, ou de la divination verbale, ou de l'ominologie verbale, lors même qu'il copie ou réutilise partiellement certains exemples chinois, est très souvent transformé ou réinterprété. Alors je prendrai mes petits exemples, que je n'ai pas le temps. D'abord, je n'ai pas d'ordinateur, pardon. Et ensuite, je n'aurai sans doute pas le temps de les présenter en détail. Je vous en résume très rapidement le contexte et la substance. Le premier Wazaota apparaît le 10e mois de l'année 643. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il apparaît immédiatement après la mention du projet d'usurpation de Soga no Iruka. Et on peut dire que la simple juxtaposition de ces deux paragraphes est à elle seule une interprétation. Ce Wazaota repose sur la métaphore du petit singe, n'est-ce pas ? Iwano, alors non pas Ue, mais Iwano Heni Kozaru Kometaku, etc., etc. Le petit singe qui, au sommet d'une falaise, fait cuire son riz. Et poème qui se termine par l'allusion à une sorte de chevreuil des montagnes, Kamashishi, qui est bien sûr associé au prince Yamashiro no Oie, qui était persécuté par les Soga et qui a dû se réfugier dans les montagnes avant de commettre le suicide que l'on connaît. Le deuxième Wazaota, non nommé comme tel, apparaît le 6e mois de l'année 644, 6 mois après la mort tragique du prince Yamashiro no Oie et sa famille, et exactement au même moment où Nakatomi no Kamako et Nakano Oie préparent leur contre-complot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce deuxième Wazaota est lié, comme le premier aussi, à une montagne, au thème de la montagne. Yamashiro no Oie s'était réfugié dans le mont Ikoma. Le premier Wazaota parle aussi d'une montagne, et le deuxième, lui, est associé au mont Miwa. Il est placé, cette fois-ci, non pas dans la bouche d'un personnage anonyme, mais placé directement dans la bouche d'un singe endormi. Un singe endormi qui laisse échapper des paroles en apparence incongrues qu'un passant va transmettre et qui fonctionnera comme une sorte de signe avant-coureur d'une catastrophe. Les trois Wazaota suivants sont des fragments de poèmes qui fonctionnent ensemble et qui apparaissent ensemble au milieu de l'année 644, immédiatement après l'épisode, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, l'épisode des Kanagi. On assiste à une sorte de prolifération de faux devins qui se pressent autour de Iruka et pour essayer d'obtenir ses faveurs, rivalisent qui mieux mieux de prophéties de bonne fortune politique et économique. Donc juste après cet épisode des faux prophètes ou des Kanagi, on voit cette phrase d'introduction tout à fait classique, « Tokini wazauta mi uta ari » À cette période, Tokini, il y eut, Ari, trois Wazaota, et on les cite. Le premier, de loin, on entend une rumeur dans la plaine de Shima. Wochi katano asano no... Pardon, c'est l'autre. Horoboro ni koto ni kikoyuru, Shima no Yabuhara. Sans transition, juste après ce fragment de poème, les analystes d'Inonge, qui enchaînent avec un deuxième fragment. Poème avec quelques allusions toponymiques et des métaphores zoologiques que l'on retrouve ailleurs. Bien que je sois endormi, on entend crier les faisans d'Awanu au loin, et malgré mon sommeil, d'autres personnes se permettent de faire noise. Troisième fragment de poème, métaphore toponymique qui renvoie bien sûr à nos acteurs principaux, puisque le premier toponyme, Wobayashi, le petit bois ou le bosquet, est bien sûr une référence à l'allonyme de Iruka, l'un des noms de Iruka. Wobayashi ni ware o hikirete seshi hito no omote mo shirazu, ie mo shirazu. Je ne connais ni le visage ni la demeure de celui qui m'a fait violence après m'avoir entraîné dans le petit bois. Texte qui est présenté comme une allusion, la chose est un peu tirée par les cheveux, mais allusion cette fois-ci à la mort méritée de Iruka, avec une sorte d'inversion de l'attribution de la valeur symbolique du toponyme. Après cette présentation succincte, s'il me reste 5 minutes,
passe encore.
Oui. Je vais proposer très vite une sorte de synthèse des grandes caractéristiques, enfin, ce qui me paraît être les grandes caractéristiques du Wazauta et de son fonctionnement. Je commencerai par un point très concret sur lequel j'ai fait l'impasse jusqu'à présent, ce qui est le vocabulaire qui, en japonais, désigne les Wazauta. L'instabilité est considérable. On peut rencontrer des cas qui reproduisent le scénario et les grandes caractéristiques du Wazauta, c'est-à-dire une sorte de rumeur, sans auteur connu, mais qui n'est pas affecté de l'appellation officielle de Wazauta, avec le double kanji, le binôme Tongya, n'est-ce pas ? On peut trouver, par exemple, d'autres expressions beaucoup plus neutres, comme Toki no hito no uta, ou bien Yōka, l'inverse de Kayo, n'est-ce pas ? Kae, Eika, etc. Et inversement, on a des exemples identifiés dans les textes comme des Wazauta, avec le fameux terme de Tongya, sans en porter le marqueur essentiel qui est le clédon poétique, cette espèce de voix mise en forme de poème et qui est censée se prêter à une interprétation politique ou cosmologique. Alors, le terme chinois de Tongyao renvoie moins, semble-t-il, au départ au destinataire de ces poèmes, c'est un sens sans doute postérieur, qu'à leur auteur supposé, l'innocence du récitant, en chinois on dit tongxi, n'est-ce pas, pour désigner cette innocence, est une sorte de validation du texte qui n'est ainsi absolument pas déformé par son lecteur. Et même selon certains auteurs, c'est l'indice de l'origine divine du message, qui est ainsi transmis sans le moindre distorsion. Alors la lecture japonaise de Wazauta, je répète, qui n'est pas attestée dans Nihonshoki pour cause, le texte est écrit en kanbun, est assuré, je le disais tout à l'heure, par le Shinsenjikyo, et puis bien sûr par toute la tradition des commentateurs ou l'abbé Yoshida, un peu plus tardive. Ce terme possède une connotation beaucoup plus précise. Si on en croit Ono et les autres auteurs des dictionnaires classiques, le mot « waza » que l'on trouve dans « kamiwaza »,« kotowaza »,« wazawai », etc., etc., désigne en soi une action, non seulement une action neutre, mais une action soit mystérieuse, qui est porteuse d'une intention secrète de la part du Dieu, soit porteuse d'une efficace tout à fait particulière et magique, ou d'une action directement accomplie par un Dieu. Et à partir d'ici, le Wazauta se connaît un embranchement entre deux familles, une qui est plus proche de ce qu'on pourrait appeler la culture proprement religieuse, propre au Japon, qui est plutôt une orientation théoglossophanique. Le poème transmet directement la voix, une voix qui est censée être celui du Dieu. Et de l'autre côté, une simple rumeur, ce que j'ai appelé Vox Populi, ou à la rigueur Vox Mundi, une rumeur dont on évite de donner l'auteur précisément parce qu'elle contient une admonestation politique ou une critique assez frontale du régime en place. Deuxième point, pardon. Dire que la divination apparaît en cas de crise est une banalité, bien sûr. Crise de la fondation. Dans le cas de Jimuki, on a un poème de Isuke Yorihibime qui ressemble un petit peu à un Wazauta, ou un poème de divination. Crise de la refondation dans le Suzinki, le fameux poème Mimaki Iribiko Yawa, par exemple. Crise de l'usurpation dans le Kogyokiki, par exemple, et le Tenchiki. Crise internationale dans l'affaire de Corée, etc. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant dans le texte, c'est que la crise est mise en abîme. Non seulement les dysfonctionnements cosmologiques sont une métaphore bien connue de la crise politique, on le connaît en Chine, en Corée et au Japon, Mais cette crise s'accompagne en même temps, selon le texte lui-même, d'une crise soit rituelle, soit religieuse, ou ce qu'on pourrait appeler globalement une crise du système symbolique auquel fait référence le texte. Pour donner deux ou trois exemples, et donner un peu de matière et de chair à ce que je viens de dire, on se souvient que Sujin, qui est un peu extérieur à notre domaine, qui se situe un peu en amont de notre domaine, vit une crise, c'est grave, au tout début de son règne, crise de la fondation, et face aux calamités qui affectent le monde, l'univers et la population, il essaie de mettre en œuvre toute une série de manœuvres apotropaïques, manœuvres rituelles, qui empruntent à peu près tout ce qu'offre la palette rituelle disponible à l'époque. Des rituels qui semblent être de type japonais, d'autres décalqués de modèles chinois. Il termine ça par des tentatives d'intervention divinatoire, kéloniomantique, puis oniromantique, et rien n'y fait, les calamités se poursuivent. Et ce n'est qu'à la fin que la crise semblera se résoudre, après, je répète, un échec qui démontrait de façon tout à fait pédagogique dans le texte de toutes les techniques anciennes ou traditionnelles de résolution de la crise. Dans le cas de Kōgyoku, c'est exactement la même chose. Lorsque la fameuse sécheresse de l'année 643 dure un peu trop, ce qui semble être le proto-shinto et qu'on n'appelle pas encore tel, les kannagi des villages, nous dit le texte du Nihonshoki, pratiquent des sacrifices animaux, ce qui est assez curieux, offrent des sacrifices de gros bétail, par exemple, dans les sanctuaires de province, pour essayer de faire revenir la pluie ou de calmer les dieux insatisfaits. Cette technique n'a aucun succès. Ensuite, sur l'intervention des soga, on décide de... Ah, j'ai cru qu'on était passé de 2 minutes à 5 minutes. Je crois que c'était un miracle bouddhique. Pardon. Ensuite, sur le conseil de soga, on décide de procéder à une sorte de tendoku, c'est-à-dire lecture sélective d'un grand sutra, pour faire tomber la pluie. Et là encore, la manœuvre se termine par un échec total, mais qui en même temps atteint, bien sûr, dévoile en quelque sorte l'incompétence rituelle de Soga indirectement. Et ce n'est qu'à la fin, lorsque Kōgyoku elle-même, reproduisant ou adaptant certains rituels chinois, rendra un culte au ciel et aux quatre directions, que la sécheresse prendra fin. Mais ce n'est qu'un début de crise, et une autre se présente par la suite. On verra par exemple une série de devins de village, comme dans le premier épisode, se mettent à proliférer sur le passage des déplacements de Soga no Imishi ou Soga no Iruka, et à l'entrée des ponts ou près des carrefours. Ils se prétendent inspirés par les dieux, on parle même de Shingo, c'est pas parole divine, transmettent à Iruka ces espèces de promesses de vie éternelle et de réussite politique. Ce qui est très intéressant, c'est que ces voix ou ces prophéties sont directement infirmées par le texte, qui les présente comme une sorte de bourdonnement inaudible qui est commenté par une sorte de rumeur au deuxième degré. Le texte ajoute, après ces fausses prophéties ou ces prophéties inaudibles, les anciens à cette époque virent dans le caractère inaudible de ces prophéties la preuve ou le signe de l'imminence d'une crise politique ou d'une transformation, d'une mutation profonde. On pourrait continuer encore avec un autre exemple qui apparaît sous le règne de Kōgyoku, qui est l'apparition tout à fait étrange d'une secte, je dirais presque revivaliste, assez curieuse, la secte du pays de Tokoyo. Un habitant du pays d'Azuma recommande à ses fidèles de révérer un insecte étrange en promettant que s'ils se sépare de toute leur fortune, ils sont assurés évidemment de connaître une vie tout à fait heureuse. Et encore une fois, le texte se termine par une dévalorisation de ces faux prophètes, par une condamnation du fondateur de secte et par l'apparition d'une nouvelle voie ou d'un nouveau clédone de conclusion qui va confirmer cette fois-ci le caractère presque irrémédiable de la crise. Donc ce que je voudrais dire, je vais être obligé, pardon, d'amputer complètement la conclusion. Ce qu'il y a d'intéressant dans ces textes, c'est qu'ils sont accompagnés de leur interprétation. L'interprétation est indispensable parce qu'à la différence des poèmes d'expression directe que l'on trouve dans d'autres passages du texte, Kojiki, Nihonshoki ou ailleurs, qui en principe utilisent des tropes ou des figures qui sont directement compréhensibles par l'interlocuteur, au moins par un spécialiste à qui l'interlocuteur va faire référence. Ici, le poème est si obscur, et pour cause, au départ ce n'est pas un poème divinatoire, c'est un poème complètement indépendant du contexte, qui a été arraché à son contexte, souvent un poème populaire par exemple, ou folklorique, qui a été replacé dans ce contexte au moment de la compilation de l'Annale, pour redonner un sens à des événements qui, tels quels, seront entièrement neutres. D'où la nécessité donc d'une interprétation qui est souvent qui se fait après l'arrivée de la catastrophe. C'est une procédure qui rappelle un peu les différents temps, la notation du texte divinatoire, même à l'époque de la plastromancie, où après le résultat, positif ou négatif, le devin notait sous forme de petite glose sur le plastron l'issue éventuelle de la consultation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette interprétation est très souvent elle-même présentée à son tour comme un wasauta, c'est-à-dire comme une rumeur sans auteur particulier qui circule dans le pays et qui est présentée comme un discours rapporté. Arushito Iwaku, par exemple, ou Aruni Iwaku, il est dit dans un livre où certaines personnes affirment. Je termine, pardon, donc j'ampute le reste. Tout cela nous confirme que l'opération divinatoire, loin d'être un simple objet ou un simple colifichet qui serait une concession au goût des compilateurs ou à la culture chinoise des compilateurs, est quelque chose qui intervient directement dans la composition même du mémorable ou dans la construction même de l'histoire. Les collages restent visibles dans l'ensemble du Nihonjoki, dans ces périodes de crise par exemple, et la manière de ponctuer les éléments de la crise de ces wasauta montre très bien que les compilateurs n'ont pas recherché de vraisemblable historique dans ce contexte-là. Donc en conclusion, on pourrait dire que cette hominologie, la verbale, connaît en gros deux grandes évolutions dans le cas japonais. Vous avez deux grandes directions techniques. Dans le cas du clédonisme écrit, c'est le cas des wasauta, on va assister à un formatage de plus en plus grand du clédon, c'est-à-dire de la formule elle-même. Ou alors, dans ce qu'on pourrait appeler le clédonisme pratique, c'est le cas du tsuziura, la divination des carrefours, ce ne sont pas les paroles qui, elles, restent fortuites, mais bien la mise en scène et le contexte qui, lui, va être formalisé. On va formaliser le lieu, on va même décider un carré sur la route, par exemple, formaliser le temps, définir des moments, des fenêtres très précises dans le temps, par exemple, et parfois les acteurs, pour rendre plus vraisemblable l'issue du clédon. Dernier point, donc, j'y avais fait allusion tout à l'heure en introduction, ce qui va caractériser l'usage japonais de ces formes, même chinoises, c'est un progressif mais irrémédiable réinvestissement théologique qu'on verra se manifester, même dans le cas de la divination des carrefours, avec l'invocation du dieu Saenokami, du dieu des carrefours. Pardon pour ce galop.
ここは大変刺激的なジレマがあります。どうしても7時にこのところを開けなければなりませんので、今のロシェ先生の言葉と占い日本書紀の言葉と占いの解釈と、あとでその変遷の仕方についてとてももうなかなか皆さんの特に日本のあれから来られた先生方に大変興味を議論を醸すような話題ですけど、どうしても時間がありませんから、もしよろしければ後での食事の間に食事で何て言った骨で占いでもしながら、直接、merci beaucoup.